Bonjour à tous, bienvenue dans le débat de midi où, comme à notre habitude, nous allons prendre soin de nourrir nos méninges, rien de roboratif, mais du gourmand. La fin des vacances est proche, peut-être avez-vous déjà repris le travail ou allongez-vous dans votre hamac, vous vous préparez à reprendre la route ce week-end avec son cortège d'embouteillages et de sandwich triangle, qui font toujours des rentrées heureuses. Alors pour vous motiver et accélérer votre compétitivité d'employé modèle, nous avons, dans le débat de midi, choisi de parler du droit à la paresse. Et oui, vieille idée que celle-ci, qui trouve sa source au 19e siècle dans un ouvrage de Paul Lafargue, est remis au goût du jour cette année par des politiques adeptes du coup de communication. Et pourtant, le droit à la paresse, ce n'est pas sécher le travail, mais mieux organiser son temps pour que la tâche salariée ne soit plus une contrainte, que l'on ne passe pas sa vie à la gagner. Bref, que le travail ne casse plus. Certains voudraient que l'on passe d'ailleurs de 35 à 32 heures. D'autres imaginent un retour du ministère du temps libre, comme c'était le cas en 1981, lors de l'accession au pouvoir de François Mitterrand. Une administration souvent moqué à l'époque, que Coluche avait qualifié de ministère du pognon fou, mais qui a créé quand même les chèques vacances dont ont déjà bénéficié 4 millions de personnes. Étonnant de voir que cette idée de droit à la paresse revient au moment d'ailleurs où une nouvelle aventure de Gaston Lagaffe est d'actualité. Le héros de BD dont la principale tâche est de rêvasser au travail, peut-être une inspiration pour chacun. Mais au fait, moins travailler, ça coûte combien? Alors il y en a des questions et on attend les vôtres ainsi que vos commentaires via vos notes vocales et messages sur l'appli France Inter. Également par WhatsApp au 07 64 13 70 07 64 13 70 07. Le débat de midi ne chôme pas pour parler de paresse. On prend son élan et c'est parti.
Jean-Mathieu Pernin, le débat de midi sur France Inter.
Et pour en parler, le débat de midi reçoit Paul Mongentin. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes diplômé de Sciences Po, directeur du développement de Webforce 3. Qu'est-ce que c'est que Webforce 3?
C'est un réseau d'écoles des métiers du numérique.
D'accord, très bien. Voilà. Et vous avez publié également des notes pour l'Institut Rousseau. Et vous avez coécrit avec Charles Andriassens la note pour un ministère du temps libéré. C'est justement ça aussi qui nous intéresse.
Alors, juste préciser qu'on sort un ouvrage le 19 janvier prochain.
Eh bien, très bien.
Voilà, sur ce sujet qui sera la poursuite des réflexions aux éditions du Faubourg.
Très bien, c'est bien noté. Merci beaucoup. Natacha Polony, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, essayiste, directrice de la rédaction de Marianne. On vous connaît sur France Inter, notamment le samedi midi dans le grand face-à-face de Thomas Snegaroff. Ça sera là pour la rentrée de septembre. Mais ça sera. Et vous avez travaillé d'ailleurs sur le sujet du travail et de la paresse. On va en discuter avec vous. Denis Grosdanovic, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes écrivain, philosophe. Vous avez publié fin 2022 La gloire des petites choses aux éditions Grasset. Donc ça tombe pile dans notre sujet, en tout cas du jour. Et également Olivier Babot, bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Alors vous êtes économiste, président et fondateur de l'Institut Sapiens, auteur entre autres de La tyrannie du divertissement paru en février dernier. Donc on va en discuter. Alors forcément au départ une question assez simple, Natacha Polony, pourquoi au départ à votre avis ce droit à la paresse a-t-il fait son retour ?
Il fait son retour, il faut le replacer dans un cadre qui est celui des débats au sein de la gauche, puisque c'est à gauche qu'a surgi ce débat-là, entre par exemple, François Ruffin et Fabien Roussel, qui chacun, à sa manière, ont évoqué la question de la valeur travail et se sont inquiétés du fait que cette valeur, en fait, est basculée plus ou moins à droite, ou qu'en tout cas, et c'est vrai si on regarde les statistiques électorales, les travailleurs, les employés, les actifs, actuellement, sont en train de basculer même vers l'extrême droite. Et donc, il y avait ce questionnement, et face à cela, il y a tout un courant d'ailleurs auquel ne s'opposent pas des gens comme François Ruffin, mais qui est un courant de la décroissance et qui réfléchit de façon extrêmement intéressante sur la société de consommation, sur l'exploitation à travers la technologie. Et ce sont toutes ces réflexions-là qui se mêlent et qui, hélas, j'allais dire, se sont cristallisées autour d'une expression reprise par Sandrine Rousseau notamment, le droit à la paresse, et à mon avis d'une manière qui passait à côté de tout ce que ce débat peut avoir d'essentiel. La seule chose dont on peut se réjouir, c'est que pendant des décennies, on a réfléchi sur l'emploi, et que personne ne réfléchissait sur le travail, sur sa dimension d'aliénation, sur la façon dont on pouvait modifier aujourd'hui les conditions de travail, sur le sens que pouvait avoir ce mot-là.
Alors, Denis Grosdanovic, à propos de cette polémique politique, c'est vrai, la députée donc écologiste du 13e arrondissement, Sandrine Rousseau, disait « moi je suis pour un droit à la paresse », et il y avait Fabien Roussel qui avait répondu en disant « moi je ne suis pas pour ceux qui sont pour la flemme ». Est-ce qu'on est vraiment dans ce débat avec ce vocabulaire-là ? C'est-à-dire, est-ce que forcément un droit à la paresse, c'est un droit à la flemme ?
Enfin, une fois de plus, c'est la faute à Rousseau, donc, si je comprends bien. Et donc, oui, enfin, moi, personnellement, ce que je veux parler du travail, oui. D'une certaine façon, sûr. Ça peut paraître curieux. Mais le
pour
problème,
vous,
c'est que...
est-ce qu'une paresse, c'est la flemme, forcément ?
Non, pas du tout. Mais de toute façon, moi, je ne veux pas défendre la paresse, je veux défendre l'oisiveté. Il y a une nuance.
D'accord.
C'est très différent.
D'accord.
Et c'est pour ça que j'ai amené un petit texte.
On va en parler tout à l'heure.
De l'apologie des oisifs de Stevenson. Mais non, c'est surtout le fait que. Il y a un sociologue, je ne me souviens plus de son nom, qui avait produit un documentaire à la télévision qui s'appelait « La destruction du travail », où il expliquait que maintenant, la plupart des gens donnent des heures de leur vie en échange d'argent. Mais les travaux qu'ils ont à faire ne les intéressent plus du tout. Et c'est ça le gros problème.
C'est ça.
Le problème principal, c'est celui-là. Moi, mon père travaillait comme peintre et dessinateur dans un atelier de verrier. Et les ouvriers, à son époque, ils sifflotaient en travaillant. Et maintenant, on trouverait
oui, c'est
difficilement.
C'est assez rare, en effet. Olivier Babot, est-ce que vous diriez aussi que le retour de ce terme « droit à la paresse » pourrait être une sorte d'antidote à l'époque où on nous demande d'aller toujours très vite, de tout exécuter, de faire 50 tâches en même temps, d'être au courant de tout en permanence grâce à Internet ?
Moi, j'ai plutôt l'impression que ce débat, il traduit en fait une époque qui a déjà changé, en fait, et qui est l'aboutissement d'un long processus qui a duré tout au long du XXe siècle, hein, qui avait commencé un peu au XIXe, de sortie en fait du travail de nos vies. Hein, le travail devient minoritaire. Et dès 1962, hein, c'était Dumas Dié qui avait écrit La civilisation des loisirs. C'était un proche de Léo Lagrange. Il avait bien compris que, d'ailleurs, même John Maynard Keynes, hein, l'avait compris dans les années 30, que petit à petit, le progrès technique, l'augmentation de la productivité c'est quoi ? C'est faire la même chose en moins de temps, hein, ou alors ça veut dire que vous avez du temps qui est libéré, et que donc nos vies allaient de plus en plus se dérouler en dehors du travail, ce qui était assez nouveau, parce qu'avant, s'il faut se souvenir, au 19e siècle, une vie, c'était une vie avant tout de travail à au moins 70-80%. Hein.
Ouais, c'est ça, Paul Mogentin, pour vous, aujourd'hui, antidote à l'époque ou pas, ce droit à la paresse ?
Pour moi, le droit à la paresse, il pose de manière provocante une question sérieuse qui est celle du sens au travail. Et moi, je ne crois pas qu'il y ait une crise de la valeur du travail. Par contre, il y a une crise du travail. Le travail, c'est ce qui définit l'homme, l'homo faber, et qui le distingue du règne animal. Et le travail, c'est l'action par laquelle l'homme rend le monde habitable. Mais aujourd'hui, le monde, on est en train de le rendre inhabitable. Et donc, moi, ma conviction, c'est que le changement de rapport au travail des Français, des nouvelles générations en particulier, il est lié à une crise du travail, un travail qui alimente un système économique qui est à bout de souffle. C'est notre analyse.
Et pourtant, Natacha Polony, c'est vrai que sur le travail, les Français aujourd'hui sont plutôt assez sévères, parce qu'il y a une enquête IFOP qui montrait que 21% des Français considèrent le travail comme très important, trois fois moins qu'en 1990 par exemple. Et en 2018, 65% des Français estiment manquer de temps pour faire tout ce qu'ils voudraient faire dans une journée. C'est assez paradoxal, non ?
Alors, il y a énormément de paradoxes dans ce débat et d'incompréhension. Premier point, nous sommes, je pense, et tout le monde le constate, à l'aboutissement d'un cycle qui est celui qui s'est ouvert en fait avec la révolution industrielle et qui, en effet, aujourd'hui, apparaît comme aliénant et destructeur de la planète. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il faut y adjoindre le cycle de la mondialisation. Parce que l'immense paradoxe, c'est que ces dernières années, la réduction globale du travail en Occident et l'augmentation du loisir s'est faite, et du loisir et de la consommation, s'est faite, en fait, sur le dos de travailleurs d'autres pays qui, eux, n'avaient pas justement les mêmes droits sociaux. Donc, et il faut, ça c'est une dimension, me semble-t-il, que beaucoup oublient dans ce débat. Dernier point, les loisirs, le temps qu'on a pour soi, deviennent aussi une forme d'aliénation. C'était d'ailleurs le sujet du dernier livre d'Olivier Babot. C'est-à-dire que l'industrie a gagné, le processus d'industrialisation qui s'était attaqué au travail, s'est attaqué ensuite au temps libre. Et en fait, c'est tout cela qu'il faudrait aujourd'hui affronter. C'est-à-dire que libérer du temps aujourd'hui, du temps qui ne serait pas donné à la productivité au travail, ne va pas forcément améliorer le bonheur, et le terme de bonheur est essentiel, et il faut penser le bonheur, ça ne va pas forcément améliorer le bonheur des individus, parce que ça va se faire au profit d'une industrie du loisir qui, au fond, parfois aussi aliénante que le travail.
Voilà, c'est ça qui est étonnant, Olivier Babeau, c'est qu'on nous dit le loisir, l'industrie du divertissement, ça peut nous sortir de notre quotidien, et on voit en effet ce que dit aussi Natacha Polony, et qu'on constate, c'est-à-dire qu'on applique parfois les mêmes recettes à nos divertissements que les recettes que l'on applique dans notre vie professionnelle, c'est-à-dire qu'on doit se tenir au courant aussi des dernières nouveautés, on doit tout faire vite, tout comprendre rapidement.
Oui, c'est pour ça que je suis un peu, j'ai un peu de mal avec le terme de paresse, parce que je trouve qu'on confond paresse et loisirs, en fait, hein, et que, en fait, il faut pour réussir ses loisirs pas mal de courage, de discipline, d'effort, de capacité à mettre le plaisir immédiat à distance, parce que c'est vraiment ça la vraie question, hein, paresse par rapport à effort, hein, si l'inverse de la paresse, c'est l'effort. Et en fait, il en faut beaucoup dans le loisir pour justement résister, aux sirènes de la facilité, du premier degré, du plaisir immédiat, et donc on a un peu en jetant la valeur travail, hein, qui est une question passionnante, hein, sur la fin de la valeur travail, la place du travail dans nos vies, on a un peu jeté le bébé avec l'eau du bain parce qu'on a aussi jeté la valeur effort. Et ça, c'est quand même dommage, parce que du coup, ça nous laisse avec des loisirs qui pour le coup, ne créent pas notre bonheur non plus, qui sont aliénants, comme l'a dit Natacha.
Juste un mot, Olivier Babeau, vous avez aussi déclaré qu'au Moyen-Âge, il y avait énormément de jours fériés. Presque autant de vacances qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a réduit aussi, alors parce qu'en France, on dit toujours qu'on a pas beaucoup de vacances, ça veut dire qu'il y en avait davantage auparavant ?
En fait, il y en avait quasiment pareil. On peut parler d'environ 120 jours chômés, tout compris dans une vie d'un travailleur du Moyen-Âge. Mais alors, quand on travaillait plus longtemps. Attention, on travaillait avec le début du soleil jusqu'à la fin. Évidemment, on était dépendant des cycles naturels. Et puis, on vivait pas très longtemps. Mmh. Mais en tout cas, c'est pas du tout le travail de la révolution industrielle, avec à un moment donné même plus de dimanche, qui lui sera vraiment le pic, hein, en matière de remplissage de la vie par le travail.
Et Paul Mangentin, vous rajouter.
Oui, moi je voudrais dire que le temps libéré que nous défendons, c'est un temps actif. Savez-vous qu'en France, 20 millions de personnes donnent chaque année de leur temps à des associations. 9 millions de personnes en France consacrent du temps en tant que proche aidant à des personnes en situation de handicap ou de perte d'autonomie. Donc moi, ce que je voudrais dire, c'est que je pense que c'est une erreur d'opposer en tout cas le temps libre au travail, car le travail ne se réduit pas à l'emploi marchand.
Oui, c'est ça.
Nous, ce que nous défendons, c'est un temps libéré, libéré notamment de la sphère marchande, de la société individualiste dans laquelle nous vivons, pour permettre à chacun de s'épanouir. Et voilà, il y a une réflexion là-dessus.
Quand vous dites sphère marchande, juste pour qu'on comprenne bien aussi, ça veut dire que même la sphère marchande des loisirs, c'est-à-dire ou comme on voit aujourd'hui, c'est-à-dire on le voit aujourd'hui des loisirs, par exemple, qui coûtent assez cher, les loisirs font complètement partie de notre société.
Notre conviction, c'est que la politique du temps libéré que nous proposons, elle s'attaque aux inégalités face au temps libre.
D'accord.
Et l'une des réponses qu'on préconise, c'est une politique de service public, d'accès aux infrastructures de sport, de loisirs. Et par définition, c'est un temps qui n'est pas marchand. Après, il ne s'agit pas de dire aux gens ce qu'ils doivent faire de leur temps libre, mais d'ouvrir des possibilités de vivre un temps non marchand.
Denis Grosanovic.
Oui, alors je pense qu'il y a deux choses qu'il faut préciser. C'est le problème, c'est la vitesse. On est tous épris de vitesse. Et moi, j'ai tendance à penser que le temps gagné par l'entremise de la vitesse est inutilisable pour le bonheur. Et deuxièmement, le machinisme. Et le machinisme est la grande plaine de notre société.
C'est-à-dire le machinisme.
C'est-à-dire l'industrialisation à outrance. Mm. Et vous savez qu'il y avait le taylorisme, maintenant il y a ce qu'on appelle le toyotisme. Il y a des ingénieurs, il paraît qu'ils viennent dans les hôpitaux en France, pas seulement dans les usines, ils observent les faits et gestes d'un ouvrier, et après ils le filment. Ils lui disent, là, deux gestes de trop, trois gestes de trop, et ils essaient de le former. Alors, en plus, c'est pas du tout rentable, parce que ça crée énormément, il y a beaucoup d'ouvriers qui se blessent, et deuxièmement, ça crée des burn-out absolument incroyables. Et alors, pour moi, la solution, et là, je sais que je vais faire plaisir à Natacha Polony, pour moi, je suis un grand, promoteur de la décroissance. Je vois pas comment on pourrait faire autrement que de décroître. Mais il faut décroître dans tous les domaines. Non seulement au niveau de la vitesse, au niveau des échanges, la mondialisation évidemment, mais aussi intellectuellement. Parce que les gens veulent trop comprendre les choses, veulent trop.
Et est-ce qu'on peut reprocher à quelqu'un de trop comprendre, de vouloir trop comprendre ?
Bien sûr, parce qu'en général, il comprend très très mal les choses. Et surtout.
Ah, vous le dites, c'est vous qui le dites.
Non, mais je vais citer l'évêque Berkeley qui disait très peu d'hommes savent penser, mais tous tiennent absolument à avoir une opinion.
Oui.
Et c'est ça le problème, c'est savoir reconnaître les gens qui ont une opinion valable. Et c'est pas ce qu'on nous apprend à l'école, malheureusement. Et on nous farcit la tête de choses. Vous voyez, on fait des têtes bien, bien pleines, mais pas des têtes bien faites.
Ah, très bien. Bon, bah, écoutez, en
tout cas, ouais. Je peux finir avec le sport par rapport au loisir. Tous les grands champions sportifs que j'ai côtoyés, évidemment, oui, dans ma jeunesse.
Vous êtes ancien sportif de haut niveau.
C'est ça. Et tous ceux que j'ai connus, et en dernier, je couvrais Roland-Garros, je peux vous dire qu'ils ne s'amusent pas du tout. Et ils ont tous un sport hobby pour continuer à s'amuser.
Comme ah bah, bien sûr, oui.
Les champions de tennis que j'ai connus, je peux vous dire qu'ils ne s'amusent pas du tout.
Ah ben bah non, mais c'est un métier, hein, en même temps aussi. C'est aussi pour ça. Natacha Polony, voilà, quand vous entendez ça paraît très étonnant. Voilà, décroître dans tous les domaines.
Disons que je pense que déjà, il faudrait, pour qu'on comprenne un petit peu les fondements de ce débat, rappeler ce que c'est que le concept d'aliénation, le fait de devenir étranger à soi-même. Et l'analyse marxiste, c'est cette analyse qui porte sur le travail et sur le capitalisme comme facteur d'aliénation, c'est-à-dire le fait qu'on dépossède l'individu, le travailleur, de ses capacités et de les modalités par lesquelles il va pouvoir agir sur le monde et développer son être. Mmh. C'est ça l'aliénation. Et l'aliénation aujourd'hui, elle existe aussi, je le disais tout à l'heure, dans les loisirs, dans la mesure où une industrie vous dicte comment vous devez employer votre temps libre et fait de l'argent sur le temps que vous avez et dans une forme de guerre cognitive, de guerre de l'attention. Donc, nous sommes dans une société d'aliénation par le travail et par le loisir. La question est celle du retour d'une autonomie des individus et de la société. Et cette autonomie, elle ne peut pas exister dans le cadre d'une société productiviste, d'une société consumériste, c'est-à-dire une société qui transforme l'individu en rouage de la machine économique. C'est-à-dire que de toute façon, nous sommes là pour consommer parce que la croissance a besoin que nous consommions pour faire marcher la machine.
C'est pour ça que quand on allume la mèche sur le droit à la paresse, d'un coup, tout le monde, ça devient fou quand certains défendent en effet un certain système.
Sauf que le terme est mal choisi et que c'est un chiffon rouge un peu idiot, à mon avis, ne serait-ce que parce que personne ne retourne lire Paul Lafargue et ne réfléchit à la différence de contexte entre l'écrit de Paul Lafargue et la situation actuelle. On parle quand même de 1880, quand une journée de travail peut durer jusqu'à 12 heures, qu'on a encore des enfants au travail. Enfin, ça n'a rien à voir.
Avec aujourd'hui.
Et ça n'a rien à voir surtout parce que nous n'étions pas à l'époque dans le contexte d'aujourd'hui, c'est-à-dire dans un contexte de chômage de masse où vous avez en fait des entreprises, des multinationales qui ont pu utiliser la dérégulation et le libre-échange pour effacer les conquêtes sociales des deux derniers siècles. Parce que c'est ça le contexte.
Bien sûr.
En allant faire produire ailleurs, on contourne toutes les conquêtes qui ont été gagnées par des luttes sociales, par un mouvement ouvrier. Donc ne pas penser les modes de production et le libre-échange dans le cadre de ce débat, c'est passer à côté du problème.
Bien sûr, on va continuer à en parler justement de ce droit à la paresse et voir s'il correspond à l'époque ou non. Ça sera juste après Arthur H avec La Route.
Depuis si longtemps, tu attends ce qui ne vient jamais. Chasseur d'ombre, chasseur de fantômes. Ce que tu as sous la main, tu le prends. Ce que tu veux vivre, vis-le. Le temps t'échappe, le temps court, le temps s'enfuit. La chance apparaît, puis disparaît. Ce que tu as sous la main, tu le prends. Tout de suite, dans l'instant, tu vis. Depuis toujours, tu ne sais qu'espérer. La vie, c'est demain, demain, c'est loin. Ce que tu as sous la main, tu le prends. puissant qui te porte. Laisse-le t'emmener vers ton désir. Tu es la route, la poussière, le plaisir. Ce que tu veux vivre, tu le vis.
Le débat de midi, nous parlons du droit à la paresse. Faut-il l'instaurer, hein? Voilà une réflexion intéressante, surtout si vous allez reprendre le travail. Hein, bien sûr, voilà, c'est juste un petit cadeau, on vous fait plaisir. Et pour en parler autour de la table du débat de midi, nous recevons Paul Mongeotin, diplômé de Sciences Po, également auteur pour l'Institut Rousseau de notes telles que pour un ministère du temps libéré. Olivier Babot, économiste. Natacha Polony, journaliste et essayiste, directrice de la rédaction de Marianne. Et Denis Grosdanovic, écrivain et philosophe. Alors, un mot tout de même, Olivier Babot, forcément, on l'a vu depuis tout à l'heure, on discute de ce droit à la paresse, ce droit à l'oisiveté, qu'on est peut-être rentré dans une nouvelle ère au niveau de la réflexion du travail. En 2007, lorsque Nicolas Sarkozy sortait sa fameuse phrase « travailler plus pour gagner plus », aujourd'hui, elle est toujours d'actualité d'après vous?
Alors justement non, parce qu'on a refait le sondage et il y a eu un changement complet dans l'arbitrage entre travail et loisir. Dans les années Sarkozy, les gens étaient prêts à donner un peu d'heures de loisir en travaillant plus, en échange évidemment de ce qu'ils allaient gagner. Et aujourd'hui, c'est le contraire. Le sondage, le rapport, c'est 60-40 environ. Ça s'est parfaitement inversé. Et on a vraiment là encore ce marquage, hein, d'un changement de civilisation à mon avis, hein, puisque au début des 30 Glorieuses, les Trente Glorieuses se sont fondées la reconstruction sur le fait que les gens faisaient énormément d'heures supplémentaires, on travaillait beaucoup, on acceptait de donner des heures de loisirs parce qu'on se payait évidemment les fruits de la croissance. Oui. Et aujourd'hui, on veut garder des heures de loisirs, on n'est pas prêt à travailler plus.
Et Paul Mongeotin.
Oui, je voudrais rebondir sur ce sondage. Effectivement, 60% des Français sont prêts à gagner un petit peu moins, mais pas pour avoir plus de loisirs, et c'est la nuance que j'introduirai, mais pour avoir du temps libéré, plus de temps. Et plus de temps, ça veut dire aussi pour pouvoir consacrer plus de temps au lien social, ce que je décris tout à l'heure. Oui. Mais il y a aussi un enjeu, par exemple, de sobriété. Le temps libéré, c'est pour nous aussi le temps de la sobriété. Oui, hier, j'étais en vacances à Rome, et je suis revenu en train. Ça m'a pris 11 heures, plus de 11 heures de train, et donc c'est très bien parce que j'avais le temps.
Bien sûr.
On voit bien que le secteur des transports, qui est le principal secteur d'émissions de gaz à effet de serre en France, il est pour décarboner ce secteur, il y a un sujet aussi de libération du temps.
Et c'est pas seulement ça, c'est que quand vous voyagez en train, vous voyagez réellement. Quand on voyage en avion, on ne voyage pas.
C'est ce que j'allais dire.
C'est ça, oui, bien sûr. On ne voit pas. Alors, un mot aussi, Natacha Polony, sur ce terme. En effet, quand Nicolas Sarkozy, en 2007, disait travailler plus pour gagner plus, peut-être qu'il correspondait aussi à l'époque à une envie, hein, de certains Français. D'ailleurs, il a gagné, d'ailleurs, cette élection. Est-ce qu'aujourd'hui, dans ce monde politique, et notamment dans la famille de Nicolas Sarkozy, on défend toujours cette chapelle-là, c'est-à-dire travailler plus pour gagner plus, ou alors on s'est un peu converti aussi à l'idée que les Français ont plus envie de. Finalement de sortir du travail.
Je pense qu'en fait, il y a deux choses dans l'évolution qu'on voit et que les politiques, à mon avis, commencent à percevoir. Il y a d'abord la prise de conscience que travailler plus pour gagner plus, c'était une promesse quand le travail payait. Il faut quand même pas oublier que depuis, un mouvement comme les Gilets jaunes, par exemple, nous a rappelé qu'il y avait des travailleurs qui ne gagnaient pas de quoi vivre. Et qu'en fait, la promesse de l'émancipation par le travail, avec... alors, c'est d'ailleurs très marrant, il y a une dichotomie en fait traditionnelle. La gauche trouvait que le travail, c'était l'exploitation. La droite, plutôt inspirée de catholicisme, c'est tu gagneras ton pain à la sueur de ton front, donc c'est bien, c'est presque sacrificiel. En fait, tout ça ne tient plus, de toute façon, si vous avez une société où on n'est pas récompensé de son travail. Et c'est ce que beaucoup de gens, petit à petit, ont intégré. C'est-à-dire que l'article 1 de la Déclaration des droits de l'homme, hein, qui dit les distinctions sociales, c'est bien ça, ne peuvent être justifiées que par l'utilité commune.
C'est ça. Distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune.
Voilà, bon, c'est ça. Ça, tout le monde a bien compris que c'était, ce n'était absolument pas respecté dans nos sociétés. Donc, à partir de là, beaucoup de gens font sécession et disent « ça ne me concerne plus ». Et en effet, derrière, il y a l'idée de la recherche de l'épanouissement. Sauf que nous aboutissons peut-être à quelque chose qui aujourd'hui va finir par poser problème, à savoir l'idée que le travail ne peut pas s'épanouir et qu'on va s'épanouir à côté. Sauf que, premier point, une société ne peut pas fonctionner dans un cadre où tout le monde considère que le travail n'est pas épanouissant et qu'en plus on ne veut pas sacrifier certains moments de loisirs. Je veux dire, il y a des tas de métiers où on est obligé de travailler à des heures où on préférerait passer du bon temps, être en famille, se consacrer aux siens, aux liens sociaux. Donc comment fait-on ? On le voit actuellement dans la restauration. Ce sont des pans entiers du modèle français de restauration et de gastronomie qui sont en train de s'effondrer. Mais ça va bientôt être vrai, c'est déjà vrai dans l'hôpital public, parce que les gens sont mal payés, ne sont pas reconnus. Donc tant qu'on ne réfléchira pas à cette question de l'utilité commune, on ne pourra pas faire en sorte que des gens s'investissent dans leur travail. Mais derrière, il faut en effet refonder cette idée que oui, on peut s'épanouir en agissant sur le monde, agissant soit pour les autres, soit en fabriquant. Or, nous sommes un pays aussi qui a oublié l'épanouissement par la production. Et ça relève de l'éducation dès le plus jeune âge.
C'est ça, Denis Grozanovic. On le voit, cette réflexion aussi autour du travail. En fait, elle a commencé à être un petit peu réfléchie et vue par les Français au moment du Covid, mine de rien, parce qu'on changeait là. C'est-à-dire qu'il fallait télétravailler. Et donc, c'était quelque chose de nouveau. Mais tout le monde l'a remarqué, c'est qu'on télétravaillait et chez soi, même si on était en caleçon, on gardait les mêmes réflexes qu'au travail. Et parfois même, on découvrait qu'on pouvait être appelé plus tard que ces horaires de travail classique. Est-ce que ça a permis, vous pensez aussi, à toute une population de réfléchir au sens du travail à ce moment-là ?
Moi, j'ai des voisins, oui, en Bourgogne, qui ont été obligés de se confiner dans leur jardin. Et ils m'ont dit après, on n'a jamais été aussi heureux. Mais en réalité, au bout de 3 mois, ou je ne sais plus combien de temps après, ils ont repris le collier, pareil, parce que il y a l'énorme doxa et moralisante qui pèse sur eux depuis l'enfance, et puis ils sont repris.
Ouais, c'est ça.
Et aucun problème. Mais je dirais qu'il faudrait aussi définir ce que c'est le bonheur. Le problème du bonheur, c'est la qualité du bonheur. Donc, j'aimerais défendre, par exemple, l'art de la flânerie. Je peux vous dire que dans Paris, je suis quand même parisien, plus personne ne flâne. Et les touristes, ils ne flânent pas du tout. Ils sont en train de faire des selfies.
Ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps.
Vous allez dans les musées, les gens ne regardent pas réellement. Oui, ils font des selfies devant les toiles. Tout est comme ça. Les gens ne savent plus prendre le temps. Et c'est devenu un point incroyable. Et malheureusement, je pense que les réseaux sociaux et les médias jouent un rôle extrêmement néfaste dans cette histoire. Parce qu'on fait miroiter aux gens les vies des gens prétendument heureux, vous voyez, les grands footballeurs.
Parler des influenceurs également sur les réseaux sociaux, choses comme ça.
D'ailleurs, je voulais décrire, il y a un cartooniste américain. Dessinateur qui a fait un prodigieux dessin. On voit, on comprend que c'est Miami parce qu'on voit en lettres imprimées Miami dans le lointain sur une enseigne. Et on voit un Porsche américain. On voit une dizaine d'Américains avec des gueules pas possibles, presque tous obèses. Et ils sont là en train de partager un barbecue. Et il y en a un des deux qui dit, et dites-vous bien que 95% des gens sur la planète nous envient.
Oui, c'est sûr. Bien sûr. Alors, vous êtes nombreux à réagir, notamment alors par WhatsApp, Greg qui nous dit « Bonjour, je suis cadre dans la santé et je crois que ce dont les travailleurs ont besoin, c'est de pouvoir travailler dans de bonnes conditions, être satisfait de ce qu'ils ont fait et surtout aller à un rythme soutenable aussi, hein, qui leur convient. On a aussi, je suis passé à 80% pour avoir un jour off et profiter un peu plus de mes proches, pouvoir facilement prendre des rendez-vous chez le médecin et m'occuper d'eux, nous dit Céline. Et Laurent, qui nous dit aussi, vive le temps de la paresse, de l'oisiveté, de la contemplation, du retour au lien social. Moi, j'en ai eu marre de bosser 60 heures. Ça me permet 60 heures par semaine. Ça me permet de faire moi-même certains travaux du chantier de rénovation de ma maison. Donc, des gens qui sont plutôt enthousiastes. Mais alors, ce n'est pas du tout le cas de Aude. Vous allez l'entendre. Elle nous a laissé une note vocale sur l'appli France Inter. Et elle, le droit à la paresse, c'est pas trop ça.
Je suis contre l'instauration du droit à la paresse pour deux raisons. La première, c'est que les personnes qui ont accès à la paresse, ce sont principalement des personnes qui en ont les moyens financiers, donc il y a une forme d'injustice. Et la deuxième, c'est parce que je pense que la vraie question à se poser aujourd'hui, sont des questions plus sociétales, c'est-à-dire que ceux qui ont du temps devraient, plutôt que de penser à la paresse ou au loisir, ce qui sont des actes assez égoïstes, penser à s'occuper des gens qui ont besoin d'eux, que ce soit leurs proches, leurs parents ou même des voisins.
Voilà, Aurélie donc, qui nous a laissé cette note vocale sur l'appli Inter. Paul Mongeotas, c'est ce qu'elle finalement, elle va un petit peu dans votre sens aussi, puisque vous en parliez justement de ces Français qui se libèrent du temps pour aider les autres. C'est de ça dont elle parle.
Oui, tout à fait. Moi, je voudrais rebondir sur le terme d'injustice qui a été prononcé. Effectivement, il rappelait une réalité qu'on n'a pas toujours en tête, mais nous ne sommes pas égaux face au temps libre. Savez-vous qu'en France, en 2023, près de 40% des Français ne partiront pas en vacances. Pourtant, c'est un moment d'émancipation, c'est un moment où on respire, c'est un sujet aussi éducatif pour les enfants, parce que les enfants qui restent chez eux, qui ne partent pas en vacances, ils sont plus exposés effectivement aux écrans de ce point de vue-là. Et donc, nous, on pense que cette inégalité, c'est lié au fait que la puissance publique, elle a déserter ce champ-là et qu'il n'y a pas de fatalité. Mmh. Et donc, on propose un certain nombre de mesures. On parle beaucoup en ce moment du droit aux vacances et nous, on s'inscrit dans cette logique-là. Une politique d'accès aux vacances avec une politique de classe verte obligatoire pour les enfants qui n'ont pas l'occasion de voyager. Et c'est aussi un sujet écologique parce qu'on a beaucoup d'enfants qui sont éloignés des
bien
réalités
sûr. J'aimerais dire un mot, c'est que je ne suis pas tout à fait d'accord parce que moi, j'ai fréquenté énormément d'hommes d'affaires de par mon milieu du tennis et de dirigeants de sociétés. Et je peux vous dire que, d'une certaine façon, ces gens-là font semblant d'être heureux plutôt que de l'être réellement. Mmh. Et donc, en réalité, on fait valoir, justement, comme quoi ils seraient heureux, mais tout ça, c'est un leurre.
Oui. Olivier Babeau, vous vouliez réagir?
Oui, j'étais très intéressé par l'intervention de l'auditrice. Oui. En effet, le télétravail, la capacité à moduler son temps de travail, c'est quelque chose qui, malheureusement, est très, très limité pour beaucoup de gens. C'est plutôt les emplois intellectuels, supérieurs, de direction. Vous avez environ 40% des travaux qui sont télétravaillables. Évidemment, si vous êtes ouvrier du bâtiment ou coiffeur, c'est pas possible. Et les horaires sont fixés. Donc, il y a une grande injustice. Et un autre élément intéressant, c'est qu'effectivement, dans l'idée de paresse, il y a parfois, c'est la vision un peu critique qu'on peut en avoir, une vision un peu égoïste, individualiste, alors que le problème est justement qu'on a vidé les loisirs, et Natacha le soulignait en les marchandisant, en les commercialisant, on a vidé les loisirs des solidarités traditionnelles, de ce qui les remplissait autrefois.
C'est-à-dire,
on utilisait ces loisirs pour les autres et peut-être aussi pour soi.
C'est-à-dire,
c'est ça qui s'est perdu.
Quand vous dites ça, par exemple, ça veut dire quoi? Des loisirs pour les autres auparavant, c'était quoi?
Les solidarités traditionnelles faisaient que, autrefois, votre temps libre, quand vous étiez dans un village, 80% des gens au 19e siècle habitaient à la campagne, vous faisiez partie d'un collectif qui faisait que vous aviez des cérémonies, des rites, et vous aviez des jeux en commun, et vous voyez les gens. Et c'est très intéressant, depuis 30 ans, de voir que les jeunes voient de moins en moins leurs amis physiquement, et font de moins en moins l'amour. Les deux vont ensemble, parce que, les réseaux sociaux favorisent une forme d'éloignement ou de solitude paradoxale. Paradoxal, puisque vous êtes relié en permanence, mais finalement assez seul.
Natacha Polony.
Oui, je tout à l'heure, vous disiez que finalement, il n'y avait pas de. Enfin, l'important, c'était le lien social et que pour ça, il fallait du temps libre. Mais le problème est d'avoir aussi détruit le lien social dans la sphère du travail.
Bien sûr,
et c'est bien ça aussi qui s'est passé. Parce que l'existence d'une forme de communauté où l'on est soudé, justement, parfois même par la difficulté, la dureté du travail qu'on exerce, on le voit avec toute cette classe ouvrière qui a notamment pleuré la disparition des mines, des fonderies. Et évidemment que c'était des travaux atroces, extrêmement durs, mais en revanche, il y avait ce sentiment de solidarité qui a été balayé par un monde qui aujourd'hui s'est transformé. C'est, alors le terme est galvaudé, mais c'est ubérisé, c'est-à-dire en tout cas qu'on atomise le monde du travail, en incitant d'ailleurs, c'est le grand fantasme de l'auto-entrepreneur, c'est-à-dire chacun va devenir auto-entrepreneur, c'est une exploitation totale, ça veut dire que vous êtes seul, il n'y a plus de structure pour vous protéger, il n'y a plus de communauté. Donc à partir du moment où on supprime cette communauté dans le monde du travail, ces solidarités, évidemment qu'il y a la tentation d'aller les rechercher dans le moment du temps libre. Le problème étant qu'en effet, Olivier Babot le disait, l'industrie du loisir a tendance à atomiser aussi le temps libre. Et deuxième chose, il faut peut-être rappeler que en grec, loisir se dit skolē. Ça veut dire que l'école était conçue au départ comme un moment où on nourrit son esprit parce qu'on n'est pas obligé de travailler. Et le rôle de l'école, c'est aussi de permettre l'autonomie des individus qui va leur permettre ensuite de maîtriser, ne pas être réduit à l'état d'esclave. Or, ça aussi, c'est une des dimensions du problème.
Mais Olivier Babot, souvent la critique aussi par rapport à ce genre de débat, c'est « ah bah ça c'est bien facile pour ceux qui ont les moyens ». Voilà, tout simplement. C'est ce qu'on dit aussi. C'est, il y a des gens, en gros, on pourra vivre plus tranquillement, plus apaisé aussi parce qu'on a les moyens. Et beaucoup de gens, la plupart, peut-être gens plus modestes, sont exclus. Donc, ce genre de débat ne m'intéresse pas.
Oui, d'ailleurs, c'est un problème très ancien puisque la scolaire autrefois, c'était ce que faisaient les gens riches qui avaient les moyens de ne pas travailler, les moyens d'aller à l'école. Il faut se souvenir qu'aller à l'école, c'était un privilège, hein, c'était un truc de riche, un truc d'élite. Et justement, le mérite de notre système depuis un peu plus d'un siècle maintenant, c'est d'avoir donné à tous accès à ce moment où on va se cultiver, où le seul problème ne sera pas de produire, d'être utile, d'être au service de quelque chose, mais de se cultiver et de s'augmenter. Et la question aujourd'hui est que l'augmentation de la place du loisir fait que l'école, en fait, est une petite partie, en particulier la vie des enfants, et que la grande question est qu'est-ce qu'on va faire de tout ce temps libre ? Il a en grande partie été absorbé, capté par, effectivement, les plateformes. C'est d'ailleurs ce qu'a dit le président directement quand il dit qu'il y a trop de vacances. Il voit qu'aujourd'hui, le problème des inégalités, en particulier pour les enfants, c'est un problème qui se joue dans l'en dehors de l'école, dans le temps familial et dans les différences, évidemment, d'environnement.
Voilà, parce que Emmanuel Macron, en effet, a évoqué dans une interview au point éventuellement une rentrée le 20 août pour les élèves en difficulté.
Paul, je
vais juste vous donner, mais je voudrais juste avant. Paul Montjotin, vous vouliez rajouter.
Dire qu'effectivement, moi, je partage le constat qui est dressé sur l'emprise de la sphère marchande, sur le temps libre. Mais nous, ce que je voudrais redire, c'est que la politique du temps libéré qu'on appelle nos voeux, c'est finalement l'idée de dire que la puissance publique se investit dans un certain nombre de domaines, notamment la question par exemple, du sport. Le sport est une pratique encore inégalitaire parce que l'accès aux infrastructures sportives n'est pas la même partout sur le territoire en France. Il y a deux fois moins d'infrastructures sportives dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville et des zones rurales que dans le reste de la France. Donc nous, on propose par exemple un grand plan d'investissement dans la rénovation, un peu sur le modèle du Rénov, des infrastructures de sport pour permettre à chacun de... Et ce que je voudrais dire, c'est que c'est un des temps d'être ensemble quand on pratique le sport, c'est les temps où on est déconnecté, c'est les temps où on est ensemble. Donc c'est un des moyens de répondre à ce constat.
Denis Grozanovic.
Je voudrais insister sur le fait que les dits privilégiés de notre époque ne savent plus vivre du tout. Et ça, je peux le dire, c'est absolument effrayant. Et par exemple, ces géants de société que je connais, ils n'arrêtent pas de travailler parce que ils dorment très peu. Et le reste du temps, ils sont tout le temps en train de penser à leur entreprise. Et finalement, ils sont complètement névrosés,
mais ça les épanouit. Eux, ils sont peut-être contents de penser à leur entreprise, non ?
Non, je peux vous dire que non. Moi, mon expérience, c'est pas ça. La plupart... Et moi, personnellement, je travaillais très peu. Hein, j'ai jamais travaillé plus de 15 heures par semaine. Et puis j'étais obligé de dissimuler le fait que j'étais heureux. Parce que sinon, ils m'auraient viré, vous voyez, parce que ils s'apercevaient qu'avec très peu d'argent, j'arrivais à être peut-être plus heureux qu'eux. Et je peux vous dire que j'étais obligé de m'inventer des malheurs.
ça rappelle le film qu'il faut tous voir, bien sûr, Alexandre le Bienheureux. Hein, en effet, voilà, c'est exactement ça. Chapoloni,
je veux dire. Oui, en un mot, je pense que apprendre aux enfants que la créativité, l'action sur le monde, le bricolage, la couture, le jardinage, pour ceux qui ont accès à la nature, c'est un épanouissement, parce que ça, on le garde toute sa vie. Et derrière, en effet, une politique publique, ce qu'ont proposé François Ruffin et d'autres députés, grâce notamment aux travaux de l'Institut Rousseau, c'est quelque chose d'essentiel, un service public des vacances, qui permet non pas de faire du socialisme, comme certains l'ont dit, mais tout simplement que l'État joue son rôle, qui est de rééquilibrer les inégalités pour que chacun puisse s'émanciper.
Allez, on continue à en parler dans un instant dans le débat de midi. N'hésitez pas à réagir via l'appli Inter en nous laissant vos notes vocales et vos messages. En attendant, on s'écoute Bébé Gilberto avec Et Preciso Perdoar.
Madrugada já rompeu. Você vai me abandonar. Eu sinto que o perdão você não mereceu. Eu quis a ilusão, agora tô sou eu. Madrugada já rompeu. Você vai me abandonar. Eu sinto que o perdão você não mereceu. Eu quis a ilusão, agora torço eu. Pobre de quem entendeu que a beleza de amar é se dar. E só querendo pedir, nunca soube que é perder. Pra encontrar eu sei que é preciso perdoar. Foi você que me ensinou que um homem como eu, que tem por quem chorar, só sabe o que é sofrer se o pranto se acaba. Soube que é perder pra encontrar. Eu sei que é preciso perdoar. Foi você que me ensinou que um homem como eu, que tem por quem chorar, só sabe o que é sofrer se o pranto se acaba. Perdão, você não mereceu. Eu quis a ilusão, agora torço eu.
France Inter. Jean-Mathieu Pernin, le débat de midi.
Le débat de midi, nous parlons du droit à la paresse. Faut-il en instaurer ou non? On en discute avec Paul Monjotin, qui est diplômé de Sciences Po et auteur de notes pour l'Institut Rousseau. Également Olivier Babot, économiste. Natacha Polony, journaliste, essayiste, directrice à rédaction de Marianne. Et Denis Grosdanovic, qui est écrivain et philosophe. Alors, il y a Denis Babot. Olivier Babot, j'avais une question à vous soumettre d'un auditeur qui s'appelle Thierry, qui nous dit le droit à la paresse, c'est un droit bien illusoire. Comment peut-on imaginer un pays qui travaille moins que les autres pays dans le monde sans risquer de détruire son industrie et faire exploser le chômage? Il faudrait que tous les pays du monde suivent les mêmes règles. Est-ce que c'est ça, en fait, aujourd'hui, si on se dit, tiens, instaurer un droit à la paresse, à moins travailler, est-ce qu'il faudrait que ça soit tout le monde qui soit au diapason?
C'est pas faux, c'est-à-dire qu'il y a un petit problème, c'est qu'il faut qu'on respecte à peu près les mêmes règles, par exemple sociales ou environnementales, sinon ça change le prix du travail, le prix des produits qui vont être vendus, et effectivement ça nous désincite quand on est des pays plus exigeants par rapport aux autres, et ça c'est évidemment une partie de notre problème. Notre problème aussi, c'est que on peut moins travailler si on est plus productif. Or, en ce moment, la productivité, elle baisse plutôt. En France, depuis 2019, notre productivité, de façon assez bizarre, elle baisse. Donc, évidemment, ça limite nos capacités à pouvoir moins travailler en produisant la même chose.
Mais ça serait, par exemple, dans l'idée de la semaine de 4 jours qu'on expérimente en ce moment dans certaines entreprises en France. Ça veut dire ne pas revenir sur la durée du temps de travail, mais concentrer sur 4 jours.
Mais l'un des points aveugles de toute cette part de la gauche qui défend la baisse du temps de travail, mais en même temps n'a jamais rien trouvé à redire à l'ouverture totale des frontières et à la dérégulation, notamment au sein de l'Union européenne et de la part de l'Union européenne vis-à-vis du reste du monde, moi ça me fascine. C'est-à-dire que c'est évidemment ça la question. Si vous voulez faire avancer votre droit social, vous mettez une forme de protectionnisme aux frontières de l'Europe pour rétablir l'équilibre. On commence à réussir à le penser sur les questions environnementales, avec la taxe carbone. Pourquoi on ne le pense pas sur le plan social? Alors évidemment, défendre la décroissance, là aussi, ça ne peut se faire que si, à côté de ça, on protège. C'est-à-dire qu'on fait un choix, mais on ne crée pas une concurrence totalement faussée, parce que dans ces cas-là, on aboutit à détruire totalement ce qui fait l'essentiel de cette pensée de la décroissance, c'est-à-dire la capacité à produire de façon respectueuse de l'environnement, belle, épanouissante, dans de bonnes conditions. Or, on voit très bien que toutes les filières françaises, notamment agricoles, sont en train d'être détruites par des importations de produits qui n'ont pas les mêmes contraintes environnementales, les mêmes contraintes de qualité. Donc, tout ça doit être pensé ensemble, sinon on se retrouve, en effet, avec un slogan assez facile, mais qui ne rime à rien.
Denis Grosdanovic.
Il me semble que la décroissance, avec le mot sobriété, et la sobriété sur le plan de l'économie internationale, ça va aussi avec un relatif appauvrissement. Il ne faut pas avoir peur de s'appauvrir un peu pour peut-être vivre un peu mieux, d'une certaine façon.
On vit en
état de totalitarisme consumériste. Et les gens, il suffit d'aller dans un supermarché à la fin de la semaine et de voir ce que les gens consomment comme chose complètement superflue. Même des gens pauvres.
Oui, bien sûr.
Relativement pauvres.
Oui, mais
c'est effrayant. On leur fait avaler un nombre de choses dont ils n'ont pas besoin, absolument inouïes. Et c'est comme ça que ça marche. Parce que c'est une fuite en avant.
Non, mais c'est tout à fait vrai. D'où le fait que ça va avec la question de l'émancipation des individus. Parce que on leur fait avaler parce qu'il y a un système qui est fondé sur la publicité, la grande distribution, qui est tout sauf du véritable libéralisme, puisque ça détruit la liberté individuelle. C'est une sorte de dressage à la consommation. Donc, repenser véritablement les libertés individuelles et collectives, c'est déjà la base pour ensuite réfléchir au sens du travail, au sens des loisirs.
Paul Monjotin, vous vouliez rajouter?
Oui, non, je rebondissais juste sur la remarque sur l'accélération. Effectivement, je crois que l'un des phénomènes de notre époque contemporaine, ça a été bien décrit par un philosophe qui s'appelle Arthur Troza, c'est le phénomène d'accélération. Et je crois que ce qui est en jeu, c'est pas la remise en cause du travail, mais une aspiration des Français à reprendre le contrôle sur leur temps temporalité et à ralentir. On voit beaucoup dans les sondages, on retrouve souvent cette aspiration majoritaire. Et nous, dans notre la politique du temps libéré qu'on appelle nos voeux, il y a cette idée-là de dire permettre à chacun de voyager plus lentement. Donc on propose, par exemple, de répliquer ce qui a été expérimenté en Espagne sur la gratuité des TER.
Alors voyager plus lentement, c'est pas la même chose que la gratuité, parce que voyager plus lentement, il est vrai que quand on prend son train, on a envie d'arriver le plus vite possible quand même sur son lieu de vacances, non? Ça dépend.
Moi, personnellement, pas du tout.
Pas du tout, parce que alors, moi, je vais vous dire, j'ai envie d'arriver rapidement, en effet, sur mon lieu de vacances.
Regardez, par exemple, ce qui a été fait sur la politique des TGV par la SNCF. La SNCF a tué les trains de nuit au profit des TGV. Quand vous avez 5 heures de TGV, est-ce que réellement vous avez gagné du temps sur votre lieu de vacances par rapport au fait de prendre un train de nuit qui vous fait arriver le lendemain matin sur votre lieu de vacances? Absolument pas.
Alors, donc, la question avec qui je partage aussi voyage, ce wagon, vous savez,
voilà. La question du voyage et des conditions du voyage, c'est aussi une question d'art de vivre.
Mais ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, juste, je pense que c'est un impératif écologique de ralentir,
mais
ça ne se fera pas du jour au lendemain, et c'est vrai qu'il y a une dimension culturelle, et donc c'est une rupture culturelle de ce point de vue-là.
Un mot tout de même aussi, Olivier Haut, sur un phénomène, est-ce que ça participe à notre réflexion depuis le début? On a beaucoup parlé, vous savez, l'année dernière, du Big Quit, vous savez, cette grande démission aux États-Unis. En France, début 2022, il y avait eu 520 000 démissions au niveau national par trimestre, selon la DARES. 470 000 étaient en CDI. Est-ce que ça participe aussi? On entend souvent même des salariés un peu plus jeunes qui disent « Moi, aujourd'hui, je suis pas prêt à faire n'importe quoi pour n'importe qui. Je veux que ça ait du sens. » C'est-à-dire qu'il y a véritablement une autre réflexion de la part des salariés français.
Oui, ça traduit une sensibilité complètement nouvelle. Il faut bien dire que la tertiarisation de l'économie a créé beaucoup d'emplois qui ont été vidés de leur sens. Des emplois où vous faites une partie d'une tâche dont vous ne voyez pas tout à fait l'aboutissement et qui n'est du coup beaucoup moins satisfaisante qu'un travail peut-être autrefois plus manuel, mais dont vous voyez directement le sens et l'utilité. Et puis, il faut dire aussi, je crois que Natacha l'a un peu dit tout à l'heure, mais autrefois, le travail avait une vertu expiatrice et rédemptrice. Il y avait cette idée un peu religieuse du fait que on était là pour souffrir et c'était normal. Aujourd'hui, c'est plus du tout la philosophie, en particulier des plus jeunes. Ils sont pas venus là pour souffrir. Il n'y a aucune raison pour eux que le travail soit une souffrance. Et donc, ils exigent de leur travail peut-être un sens qu'autrefois que nos aïeux n'exigeaient pas parce que, ils savaient que ça allait faire mal et c'était normal, quoi.
D'accord. Natacha Polony.
Cette question du Big Quit, elle est aussi assez complexe parce que, je veux dire, tout dépend ensuite de la réponse qu'on apporte à ça. C'est-à-dire que il faut bien à un moment donné que certains produisent et que certains travaillent. Et on parlait tout à l'heure de la question de l'injustice. Quand vous avez eu un débat au sein de la gauche sur la question de l'assistanat, ça, là aussi, ça a tout de suite pris des airs d'empaillage et avec des noms d'oiseaux qui volaient. Mais il n'empêche que c'est une question importante parce qu'il y a des gens qui estiment qu'ils n'ont pas le choix et qu'ils n'ont pas non plus envie d'être assistés. D'où la question de l'émancipation. Le travail aussi, ça émancipe parce que ça permet de ne pas dépendre d'autrui. Donc, on peut considérer qu'il faudrait une société avec un revenu universel où tout le monde aurait un minimum et chacun fait ce qu'il veut. Pourquoi pas? Le problème, c'est que ce revenu universel, il faut le financer. Donc, qui va le financer? Ceux qui bossent, vous voyez? Et là, vous créez des problématiques qui sont des problématiques de consentement à l'impôt, de consentement au bien commun, à la collectivité. Donc, il faut continuer à réfléchir au fait que chacun doit pouvoir s'épanouir dans son travail, qu'il n'y a pas ceux qui vont être assistés et ceux qui vont bosser pour payer ça, mais qu'on va concevoir une société où chacun sera récompensé de son mérite, de la façon dont il va être utile aux autres, plutôt que, en effet, de récompenser ceux qui font des clics sur Internet
comme le fait par exemple X en ce moment. En effet, Olivier Babot.
Le droit à la paresse, finalement, ok si c'est un droit à liberté, non si c'est un droit à créance. Le droit à liberté, vous savez, c'est le droit c'est-à-dire que c'est un droit de s'émanciper, aller être plus libre, effectivement. Le droit créant, c'est de dire c'est un droit à, c'est-à-dire que j'ai droit au produit du travail des autres, moi, j'ai le droit de rien faire. Et c'est vrai que là, c'est l'acceptabilité sociale du droit à la paresse est moins forte.
Alors, rapidement, Denis Grosamich, pour terminer.
Juste, simplement, je crois que beaucoup de gens ont perdu le sens de... Ils n'ont pas l'impression que leur travail est utile. C'est ça aussi le problème. C'était peut-être une illusion dans le temps, le fait qu'il, mais néanmoins, maintenant, ils pensent que c'est pas utile. Donc, c'est un problème.
Allez, voilà, le débat de midi, en tout cas, se termine. Fin de la saison estivale, en tout cas. Ça a été un grand bonheur de vous accompagner au mois d'août. Bravo d'ailleurs à Paola Poeri qui a animé tout le mois de juillet. Un grand merci à tous les invités qui ont dû s'extirper de leur refuge estivaux pour venir débattre et profiter d'un magnifique verre d'eau offert gracieusement par la radio publique. Donc, merci aujourd'hui à Paul Bonjotin, à Olivier Babot, Natacha Polony et Denis Grezin. Impossible de ne pas saluer ceux qui ont œuvré pour la bonne marche du débat de midi. Pierre de Certaine et ses pantalons voyageurs, Savannah Brélan et toute la communauté des fans de Yurt, Étienne Bertin qui le temps d'un été s'est imaginé poète. Enfin, un immense merci à Constance Villanoa, une vraie guerrière de l'invitation d'invité. Très grand merci à elle, comme à Jeanne Sarfati, Karmarek, Aloïs Nollet, Mathilde Texier. Quant à moi, ça a été un vrai honneur de vous retrouver, même au milieu d'un dôme de chaleur. N'arrêtez jamais la radio, c'est le mystère de la voix, l'inconnu au détour des ondes, ça devient rare, alors on compte sur vous pour ne pas lâcher le morceau. Très bon week-end en tout cas sur France Inter.